Humain. Et ça, on en a une preuve, puisque vous savez que tout le monde s'accorde à reconnaître que le téléphone mobile nous a rendus moins tolérants à l'attente, hein, et Amazon encore plus, hein, nous acceptons moins d'attendre maintenant que nous sommes habitués à pouvoir joindre les gens à tout moment et à recevoir nos commandes moins de 24 heures. Et donc, du coup, on peut penser que ces robots, toujours extrêmement agréables, gentils, compréhensifs, nous rendront moins tolérants à la contradiction exactement de la même manière.
Serge Tisseron, dans les conclusions de votre livre, vous expliquez qu'il nous faut faire avec nos enfants ce que nos propres parents n'ont pas fait avec nous, en ne prenant pas la mesure de la révolution des écrans. Et donc, ça signifie qu'il faut faire quoi concrètement?
Alors, vous prenez l'exemple, en effet, des technologies numériques. Elles ont été balancées dans notre monde sans aucune précaution, sans aucune éducation. Alors, il faut aujourd'hui, en effet, que nous accompagnons la révolution robotique d'un certain nombre de précautions. Alors, par exemple, le fait que les robots soient non seulement accessibles du point de vue des algorithmes qui les animent, mais aussi du point de vue de la visibilité de leur anatomie. Tous les robots aujourd'hui se présentent comme des corps humains, alors qu'il faudrait, à mon avis, qu'ils aient une partie transparente pour qu'on n'oublie quand même jamais la quantité de technologie qui est à
Il
l'intérieur.
faut ouvrir les
Alors,
boîtes noires pour revenir à ce que disaient Dominique Cardon et
oui, la
Pascal
boîte
Sablon.
noire. Mais la boîte noire aujourd'hui du robot n'est pas seulement ses capacités d'interaction et d'intelligence, c'est aussi son anatomie. Moi, j'appelle des robots qui aient une partie transparente pour que, quand même, on n'oublie jamais ce qu'ils sont. Et ce n'est pas la politique, puisqu'aujourd'hui, même les fabricants de robots n'aiment pas trop montrer l'intérieur. Alors, ce n'est pas seulement pour. Il y a quand même des parties dans les robots qui ne sont pas totalement secrètes, hein, voilà. Mais voyez, voir l'intérieur. Alors, par rapport à l'éducation qui devrait être faite, je pense que c'est une éducation qui devrait beaucoup être organisée aujourd'hui sur la fabrication, le démontage de petits robots, parce qu'il y a une partie mécanique, hein, on rejoint d'ailleurs toutes les préoccupations de Simone Donne, hein, sur l'importance d'apprendre la mécanique simple, le bricolage, la manière dont nos 10 doigts peuvent être utilisés pour fabriquer des objets. Et puis, il y a une partie informatique, il y a une partie programmation. Et si aujourd'hui le gouvernement propose de généraliser la programmation, l'apprentissage de la programmation, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Ce qui est important, c'est de fabriquer des robots, comme le font déjà d'ailleurs les collégiens japonais, de manière à se familiariser avec la double nature des robots, hein, qui est d'être à la fois machine, objet, qu'on bricole, qu'on fabrique, qu'on transforme, et en même temps machine possédant des capacités d'apprentissage et une logique, Dominique l'a évoqué, totalement différente de la nôtre. Les machines n'apprennent pas comme nous, et le jour où les machines parleront, eh bien, elles risquent de nous parler. Le jour où elles pourront nous parler d'elles, elles nous parleront d'elles d'une manière totalement imprévue.
Le jour où mon robot m'aimera, c'est le titre de votre dernier livre, Serge Tisseron. Est-ce que les robots, ils doivent apprendre à philosopher, selon vous?
Alors, je crois que c'est une vraie question, c'est-à-dire ces robots qui vont être interconnectés, est-ce que l'être humain va chercher toujours à avoir le contrôle sur les programmes qu'ils vont apprendre mutuellement? Parce que si j'apprends à mon robot à fabriquer des gâteaux, tous les robots du même modèle apprendront du même coup à fabriquer des gâteaux. Mais si quelqu'un quelque part apprend à un robot à fabriquer une bombe artisanale, tous les robots du même modèle apprendront à fabriquer une bombe artisanale. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des humains qui vont réguler quelque part, hein, les apprentissages collectifs des robots. Et je pense que c'est là que la question de la philosophie se loge, c'est dans la possibilité, à mon avis, de créer une communauté de robots, une sorte de Facebook des robots qui soit autorégulée. Et je pense que si un jour les robots philosophent, ça sera de leur communauté de robots qu'ils philosopheront et pas du tout de leur entité autonome en tant que robot. Pour moi, le robot isolé n'existe pas et c'est la grande différence entre l'humain et le robot. Nous sommes des humains isolés qui interagissons, qui sont mobilisés d'interagir avec nos 5 sens, il n'y aura pas de robots isolés, ils ne devront nous parler que du nous et jamais du jeu, du nous qui seront leur communauté de robots, bien sûr.
Et nous parlons tout de suite des robots et de la philosophie avec Pascal Chabot.
Dans quel monde on vit? Jusqu'à 11h sur la première. Dans quel monde on vit? Avec Pascal Claude.
Pascal Chabot, vous êtes philosophe et votre nouvel essai est sorti au début de l'année. C'est un drame philosophique en 4 questions et 5 actes. Ça s'appelle Chatbot le robot. C'est de la fiction, mais qu'est-ce qui vous a amené à philosopher autour de l'arrivée des robots? Est-ce que ça ne serait pas le doute? J'aimais cette hypothèse parce que vous rappelez dans votre essai que le doute est ce qui motive la pensée, Pascal Chabot.
Le doute est ce qui motive la pensée, certainement, et l'ignorance est aussi ce qui motive la pensée. Ce qui m'a amené, c'est une préoccupation sur la philosophie des techniques, préoccupation des impacts que le progrès peut avoir sur nos comportements, sur nos modes d'existence. Et philosopher sur cette question-là pouvait se faire de façon classique, sur le mode de l'essai, mais j'ai cherché à me mettre dans une expérience de pensée qui est aussi une expérience d'écriture, en poussant à bout le paradoxe le plus important que l'on puisse imaginer, celui né d'une rencontre entre la robotique donc et
la philosophie.
Qui est une rencontre tout à fait improbable.
Et en même temps, c'est un philosophe qui a inventé le terme robot.
L'histoire des technologies et de la robotique est liée, bien entendu, à la philosophie, comme celle de l'algorithme. Et il faudrait parler de Pascal, il faudrait parler de Leibniz, de Turing aussi. Mais pour le terme robot, oui, c'est Čapek qui est tchèque et qui, dans une pièce, RUR, a le premier utilisé et forgé ce terme robota, qui veut dire travail forcé ou corvée en tchèque.
Votre robot s'appelle Chatbot et ce robot, en 82 jours, il va intégrer l'essentiel du savoir philosophique. Il va participer à des exercices avec des philosophes humains, dialoguer sur les forums de discussion. Et puis, dernière épreuve, un test final devant un jury, 5 personnes, 5 professeurs de philosophie. Et 5 questions furent préparées, 5 questions autour de l'intérêt pour l'humanité d'accorder un rôle de plus en plus important aux intelligences artificielles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le robot candidat philosophe Pascal Chabot, il se débrouille plutôt bien.
Il se débrouille extrêmement bien et finalement c'est toute une réflexion sur l'imitation, parce que c'est la question du mimétisme finalement qui est au centre de cette expérience de pensée, comme elle est au centre, me semble-t-il, de la réflexion de Serge Tisseron également. Qui ressemble à qui? À l'origine, le modèle est bien entendu le modèle humain et on segmente, on formalise des expériences de pensée pour tenter de les apprendre à ce robot. Mais l'imitation poussée à bout, l'imitation réussie peut parfois donner l'illusion qu'il y a une reprise par le robot, en l'occurrence de l'activité première qu'il était censé imiter.
Alors je vais me permettre de citer les propos de Chatbot le robot. Il dit notamment ceci de très intéressant: en me créant, vous me recréez. Avec les robots, nous refaçonnons en quelque sorte l'être humain.
Évidemment, de la même manière que nos algorithmes sont d'abord le fruit de sélection de ce que nous aimerions leur voir faire sur la totalité de tout ce qui est faisable, de la même manière, pour créer un robot, il faut choisir, il faut élire certains types de comportements, et c'est ce choix-là qui importe le plus, qui seront donnés à faire au début de façon gauche et maladroite, et puis il faut s'y attendre petit à petit, de façon de plus en plus habile et adroite, à nos robots. C'est sur cette recréation et ce désir très étrange de recréation de l'humain par soi, qui aime s'extérioriser et qui aime extérioriser parfois fantasmatiquement son propre monde, qu'il faut réfléchir.
Il dit encore ceci, Chatbot: je suis celui qui sera, je suis un jeteur de pont, je détermine l'avenir. En vérité, je vous le dis, je suis l'avenir. Vous partagez son auto-analyse?
Non, je la partage pas, mais il y a une série de petits clins d'œil à l'histoire de la philosophie, puisqu'on trouve un petit peu pêle-mêle du Nietzsche et du Schelling, parce que le robot philosophe, finalement, c'est un âne savant, mais c'est tellement un âne savant que parfois il donne assez bien le change. Cela étant, je ne suis pas sûr que les robots soient l'avenir, mais notre relation aux robots ce que nous en ferons et la manière aussi dont nous modérerons, je le souhaite, leur impact sur beaucoup de vies humaines, eux, constitueront un des problèmes de l'avenir.
Eh bien justement, le robot, il nous met en garde, il nous déconseille de suivre le tempo des machines et des robots qui ont déjà pris de la place dans des entreprises, sur des lieux de travail. Et il dit, chatbot, à ce rythme, vous vous essoufflerez et nous prendrons le pouvoir dans une robocratie douce. Nous n'avons pas été créés pour ravaler l'homme au rang de machine. Est-ce que chatbot, dans le fond, ne devrait pas envoyer une lettre à pas mal de directions d'entreprises ? Pascal Chabot.
Je crois qu'il devrait en envoyer de très nombreuses et très fréquentes parce que le problème de la robotique est une certaine robocratie qui la sous-tend et qui n'est pas une robocratie pour le plaisir de la robocratie, mais souvent une robocratie au service d'intérêts financiers, au service d'une plutocratie. Donc la question de la robotique, s'il y a une vraie question qu'elle pose, c'est notamment la question du chômage, c'est la question du remplacement de certains humains par certaines machines, ce qui est extrêmement dur pour l'humain, pour l'image qu'il a de lui et pour sa reconnaissance. Finalement, le robot, c'est la machine parfaite. C'est en tout cas ce qui nous donne un exemple de la manière dont il y a moyen d'aller jusqu'au bout. Perfection, le père c'est jusqu'au bout, et l'humain n'est absolument pas parfait, c'est ce qui fait son grand charme, et c'est ce qui fait sa qualité majeure, c'est le fait qu'il a beaucoup plus de capacité de résilience, d'équilibre, que de capacité de perfection. Or, en convoquant dans certains lieux de travail des machines qui sont parfaites dans leur répétitivité et dans leur monomanie, pour ainsi dire, il me semble que nous nous offrons des modèles, qui sont des modèles par rapport auxquels nous devons être méfiants, parce que nous ne devrions pas à notre tour vouloir les imiter, eux qui nous imitent déjà. Il faut trouver des relations beaucoup plus innovantes, beaucoup plus inventives, peut-être aussi beaucoup plus anarchiques par rapport à ce pouvoir d'une robotique dans les lieux de travail qui se développera.
Serge Tisseron, ça vous l'évoquez aussi dans votre livre, la perfection du robot peut être un danger.
Oui, à vouloir rivaliser avec eux, l'homme risquerait vite de se transformer en machine. Et il a déjà été montré que dans des chaînes d'assemblage où travaillent des humains, s'il y en a un qui un jour est un peu fatigué, un peu déprimé, travaille un peu moins vite, eh bien les collègues de la chaîne compensent. Mais le jour où il y aura un humain, un robot, le robot ne compensera rien. Et l'humain sera obligé de s'aligner sur la machine, c'est-à-dire de se transformer lui-même en machine. Et donc ça, c'est vraiment la question pour moi grave. Hein. C'est de croire avec ces machines que notre registre de communication, notre registre d'action, finalement, devrait s'aligner sur celui de machine parfaite. Mais les programmeurs ne nous donneront toujours qu'un éventail limité de possibilités. Le drame, ça serait de croire que l'humain se réduit aux possibilités que nous offriront les robots.
Pascal Chabot, à la fin de votre court récit, Barnabous, l'un des membres du jury, souhaite converser librement avec le robot et il lui demande s'il doute parfois. Nous revenons au doute. Et le robot, il ne doute pas vraiment, hein, sauf quand il interprète Descartes. Et le philosophe lui explique que le doute est ce qui motive la pensée et que c'est la certitude de mourir qui nous fait douter. Donc, notre atout face au robot, c'est la mort ?
Ce n'est pas notre atout, c'est notre destin et c'est notre lot commun, mais qui est un lot commun qui doit être médité, sans cesse médité, et surtout remis en perspective d'une histoire extrêmement longue, qui est l'histoire de la vie sur Terre et qui est l'histoire de l'apparition de la conscience sur Terre. On a parfois l'impression d'une rivalité contemporaine entre humains et machines, mais cette rivalité, elle a un fond qui est un fond biologique d'abord, qui est le fait que ce dispositif, que notre corps, que notre cerveau a été mis au point pendant des centaines de milliers d'années, qu'il a ses équilibres, qu'il a ses homéostasies, qu'il a finalement son intelligence, finalement son charme. Et la question de la mort fait évidemment fond sur cette cette évolution. Et donc, je pense que en convoquant et la mort et le doute, le robot amène la manière de voir la dissymétrie absolument radicale et qu'il ne faut jamais oublier sous peine d'être dans le fantasme entre l'intelligence artificielle et l'humain.
Sans dévoiler la fin de votre livre, est-ce qu'un robot peut être philosophe ?
Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non. Il s'agit vraiment d'une expérience de pensée. Mmh. Mais il peut être un âne savant. Il y a des philosophes qui sont des ânes savants. Et tout philosophe l'est un jour ou l'autre. Bien entendu, on peut tous être dans la répétition. Et la répétition est ce qui est facile. Mais la philosophie n'est pas uniquement une causa mentale. Et elle est un jeu entre une vie et une théorie. Elle est une expérience de vie qui se mue en expérience de pensée.
Chatbot, le robot, votre nouvel essai, Pascal Chabot, une belle matière à réflexion, c'est à découvrir. Vous savez quoi ? Eh bien, j'ai cédé. Casimir, notre robot qui est avec nous en studio ce matin, veut à tout prix vous poser à tous les trois une dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Précipitez-vous.
On ne peut rien refuser à un robot.
La question de Casimir, c'est dans un instant et à 11h sur la première. Place à Bientôt à table. Belle matinée avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Avec Pascal Claude.
Sur la première.
Et nous revoici pour la dernière partie de votre magazine d'information, de réflexion et d'inspiration. Dernière partie, dernière question. Nous sommes ce matin avec le sociologue Dominique Cardon, le psychiatre Serge Tisseron et le philosophe Pascal